Vous écoutez, on lit pour vous.
Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme, Dr. Rebecca L. Kammer. Un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Dr. Rebecca L. Kammer, docteur en optométrie et spécialiste en basse vision. Le Dr. Rebecca Kammer a toujours ressenti l'urgence de se mettre au service des autres, et plus particulièrement de ceux qui sont soumis à une forme quelconque d'oppression. Après avoir vu un film documentaire consacré aux atrocités commises à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme en Tanzanie, elle a décidé de se consacrer à dispenser des soins ophtalmologiques aux enfants atteints d'albinisme en Afrique de l'Est, afin de les aider à devenir autonomes. Appel. Je suis médecin spécialisé dans la basse vision et docteur en optométrie en Californie, aux États-Unis. Après ma licence en ingénierie optique puis en optométrie, j'ai entrepris de courtes missions médicales au Honduras et au Kenya, où j'ai emmené des équipes d'étudiants en optométrie et des membres de mon église pour travailler avec moi. Après l'université, et comme je suis chrétienne, j'ai voulu me mettre au service des autres dans le cadre de ma profession et de ma mission. Je savais que j'avais besoin de certaines compétences pour cela, alors l'optométrie m'a semblé être la profession idéale. Au bout de 3 ans d'apprentissage et de spécialisation dans le domaine de la basse vision, je suis devenu chef de la section spécialisée dans la basse vision à l'université où j'enseignais et qui s'appelle aujourd'hui Ketchum University. Je me suis occupé de plusieurs patients atteints d'albinisme, mais ma première rencontre avec cette maladie, en dehors des États-Unis, s'est faite lors de mon séjour en Tanzanie, en tant que bénévole auprès de l'ONG Under the Same Sun, UTSS. Déclic. Un jour d'automne 2009, je ne dormais pas, alors j'ai regardé un documentaire consacré au travail du Dr. Murray Brilliant, un généticien renommé spécialisé dans l'albinisme humain et aux atrocités perpétrées contre les personnes atteintes d'albinisme en Tanzanie. Ce documentaire m'a bouleversé, alors je me suis dit que puisque grâce à mes missions, je disposais déjà des bases nécessaires pour travailler dans le domaine de la vision dans les zones reculées, et puisque je connaissais les troubles de la vue dont souffrent les personnes atteintes d'albinisme, du moins aux États-Unis, je pouvais apporter mon aide en Tanzanie. À l'époque, je ne voyais pas en quoi les visions pouvaient contribuer à faire cesser les massacres et les mutilations, mais je le pressentais. Je savais que Dieu me poussait à agir. Ce sentiment ne m'a jamais quitté depuis. Le lendemain, j'ai contacté le Dr. Brilliant. Il m'a envoyé chez Peter Ash, le fondateur et directeur de Under the Same Sun, qui venait de créer cette ONG qui défend les droits des personnes atteintes d'albinisme en Tanzanie et dans le monde. Peter s'occupait prioritairement de la sécurité, mais il comprenait tout à fait mon action en tant que médecin, étant donné qu'il souffre lui-même d'albinisme et de vision basse. Il m'a expliqué qu'il avait du mal à trouver des spécialistes qui comprennent ses visions et qui sachent comment lui procurer des loupes spéciales. Il m'a dit que je pourrais lui être utile une fois qu'il aurait mis au point un projet d'assistance aux personnes atteintes d'albinisme par le biais de programmes d'éducation proposant un environnement sûr et une aide au développement des futurs cadres. J'ai adoré son projet et je lui ai expliqué que je pourrais lui proposer mon aide dans le domaine de la vision des enfants pour qu'ils soient plus à l'aise dans leur environnement scolaire et pour maximiser leurs chances de devenir les dirigeants de l'avenir qui contribueront à mettre fin à la discrimination. Travail sur le terrain. 1 an et demi plus tard, en mai 2011, les enfants parrainés par le Fonds de gestion des bourses pour l'éducation d'UTSS se sont inscrits à l'école, et je me suis rendu pour la première fois en Tanzanie pour y rencontrer Peter Ash et ses collègues. J'y suis retourné plusieurs fois depuis, accompagné d'une équipe d'étudiants en optométrie et d'un opticien de ma clinique, pour apporter des verres spéciaux, des télescopes monoculaires et des loupes d'aume. Au fil du temps, nous avons trouvé des partenaires essentiels dans le pays, notamment Rajeswari Sagar, qui présidait à l'époque la Société tanzanienne d'optométrie, et Sospeter Wilson, un optométriste local qui m'a aidé à sensibiliser ses collègues à la basse vision chez les personnes atteintes d'albinisme. Lors de ma dernière visite en Tanzanie, en mai 2014, j'ai rencontré quelques-uns des responsables de l'ONG Standing Voice, basée au Royaume-Uni, Harry Freeland et John Beale, qui m'ont demandé de simplifier mes procédures cliniques afin de pouvoir aider davantage d'enfants à travers toute la Tanzanie. En raison du type génétique commun à toute l'Afrique de l'Est, les similitudes de mes conclusions en matière de vision m'ont amené à élaborer un plan d'identification de groupe élargi que je pourrais aider en leur fournissant des loupes simples, des lunettes de soleil et des informations relatives à la vision. Notre partenariat a débouché sur un programme pilote visant à informer les enseignants et les dirigeants sur la vision et l'albinisme, à offrir des soins spécialisés dans la basse vision aux enfants dans les écoles en Tanzanie et à développer et former des centres spécialisés dans la basse vision pour que, le cas échéant, ils soient à même d'offrir des soins plus complets. Nous produisons du matériel d'information et de formation à l'appui de ce programme et nous espérons pouvoir par la suite mettre la plupart de ces documents à disposition en format électronique, afin que ce programme puisse être repris dans d'autres pays. Aspirations en matière de droits de l'homme. J'espère que toutes les personnes atteintes d'albinisme en Afrique de l'Est pourront se renseigner au sujet de la vision, élargir ainsi leurs propres connaissances et savoir quelles sont les ressources à leur disposition pour acquérir une formation qui leur permette d'avoir une bonne qualité de vie et de jouir des mêmes droits que le reste de la population. J'ai l'intention de faire prendre conscience aussi bien aux patients qu'aux professionnels de tout ce qui a trait à la santé et à la vision. Pour les patients, c'est pour qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes et solliciter les soins dont ils ont besoin auprès de professionnels de la santé qui soient compatissants et justes. Pour les professionnels de la santé, c'est pour qu'ils puissent servir les personnes atteintes d'albinisme avec compassion et sans préjugés, et en suivant le bon raisonnement, afin qu'ils puissent rendre leurs patients autonomes grâce aux soins de santé et à l'éducation dans le domaine de la santé. C'était « Faites la connaissance des champions de la cause de l'albinisme » Dr. Rebecca L. Kammer, un texte de la rédaction paru sur le site web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
Six trucs pour une pelouse qui fera l'envie du voisin. Un texte commandité paru le 10 mai 2025 dans la presse. L'herbe est-elle toujours plus verte chez le voisin? Pas cet été. Grâce aux quelques conseils d'entretien qui suivent, faites de votre pelouse l'envie de tout le voisinage et ce, sans avoir recours aux engrais ou aux pesticides chimiques. 1. L'art de la tonte. Quand? Comment? Quel est donc le secret d'un gazon sain, qui résiste mieux à la chaleur, aux épisodes de sécheresse et aux herbes envahissantes? La tonte. En taillant votre pelouse régulièrement, à une hauteur optimale et avec des lames bien affûtées, vous favorisez sa vitalité et son enracinement profond. La règle d'or à observer. Ne jamais couper plus du tiers de la hauteur totale du gazon, ce qui signifie que vous devrez ajuster votre appareil au cours de la saison. Printemps, la première tonte devrait être faite à 5 cm. Été, effectuez la tonte à 8 cm pour que votre gazon nécessite moins d'arrosage, qu'il soit plus résistant aux températures chaudes et qu'il ne laisse pas place aux mauvaises herbes. Automne. La dernière tonte de la saison devrait être faite à 5 cm, afin de réduire le risque de maladie. 2. Fertiliser au bon moment. Un gazon dense et bien enraciné fait concurrence aux mauvaises herbes qui voudraient élire domicile sur votre terrain. Or, pour croître, les graminées ont besoin de minéraux. C'est pourquoi l'application d'engrais s'avère souhaitable une ou deux fois par année. Si vous optez pour un engrais naturel granulaire, faites une première application au printemps, lorsque le gazon recommence à pousser. Fiez-vous aux recommandations du fabricant pour procéder à l'épandage suivant, mais retenez que la fin de l'été ou le début de l'automne sont généralement les moments les plus propices à cette tâche. 3. Optez pour un engrais écologique. Les engrais naturels ont l'avantage de nourrir le sol et d'en stimuler l'activité biologique tout au long de la saison. Ces solutions de rechange aux engrais chimiques contiennent des composés d'origine végétale ou animale, farine d'os, de sang ou de plume, algues marines, fumier ou gluten de maïs. Cette dernière option, par exemple, empêche les racines des plantes indésirables, comme le plantain et le pissenlit, de se développer. Bon à savoir. N'utilisez pas de gluten de maïs si vous venez d'ensemencer ou de sursemer la pelouse, car ce produit empêchera aussi les nouvelles semences de germer. Pour la fertilisation printanière, choisissez un engrais dont le premier chiffre est plus grand que les deux suivants. 12, 0, 4 ou 9, 3, 4. À la fin de la saison, préparez la pelouse pour l'hiver avec un produit qui contient plus de potassium. 4, 0, 12. 4. Pratiquez l'herbicyclage. Les résidus de la tonte agissent aussi comme un engrais 100% naturel qui bénéficie aux micro-organismes présents dans le sol. Ce serait bête de s'en passer. L'herbicyclage consiste à laisser l'herbe couper directement sur la pelouse. En se dégradant, cette matière organique nourrit naturellement le sol. Les tondeuses qui déchiquettent le gazon sont idéales pour adopter cette technique, puisqu'elles accélèrent la décomposition des rognures. Bon à savoir. Avec l'herbicyclage, vous pourriez utiliser jusqu'à 25% moins d'engrais pour l'entretien de votre pelouse. 5. Et le terrotage. Une autre technique pour économiser sur l'engrais. Le terrotage de votre pelouse. Commencez par aérer le sol si nécessaire. Sachez que les aérateurs se déclinent en plusieurs modèles au rayon des outils de jardinage. Étalez ensuite du terreau ou du compost à la surface du gazon, puis procédez au sursemis en y épandant de nouvelles semences. À lui seul, le terrotage peut procurer à votre pelouse jusqu'à 25% de ses besoins en azote. 6. Arroser de façon futée. Avec les bonnes techniques de tonte, le sol conserve mieux son humidité. Néanmoins, si vous devez arroser votre pelouse, faites-le au moment de la journée où la température est plus fraîche, c'est-à-dire tôt le matin ou en soirée. Le saviez-vous? Un arrosage prolongé est plus efficace que plusieurs courtes séances. En effet, ces dernières favorisent le développement de racines superficielles, ce qui réduit la tolérance de la pelouse à la sécheresse. Si votre gazon sèche et jaunit pendant une canicule, pas de panique. Il retrouvera bonne mine dès le retour de la pluie. Bon à savoir. En matière d'arrosage estival, les municipalités ont des règlements qui leur sont propres. Informez-vous avant de sortir le boyau. C'était 6 trucs pour une pelouse qui fera l'envie du voisin. Un texte commandité paru le 10 mai 2025 dans La Presse.
Renaissance d'ACCM, se tourner vers l'avenir tout en honorant son héritage. Un texte de Stephen Ross paru le 25 mai 2025 dans le magazine Fugue. Seul organisme communautaire anglophone dédié à la lutte contre le VIH et à la santé sexuelle au Québec, ACCM, AIDS Community Care Montreal, est actif à Montréal depuis plus d'une trentaine d'années. Alors que la réalité des populations qui vivent avec le virus a drastiquement changé depuis le début de la pandémie de COVID-19, une importante réflexion a été nécessaire par l'organisme quant à sa structure et aux manières d'offrir aux communautés des services pérennes et renouvelés. Au moment où ACCM s'apprête à emménager dans de tout nouveaux bureaux, Fugue s'est entretenu avec Crystal Harrison et Miguel Cubillos à propos de ce que les deux gestionnaires appellent la renaissance de l'organisme. Tour d'horizon. Nous opérons depuis quelque 30 ans depuis les mêmes bureaux et nous sommes maintenant sur le point d'emménager dans de nouveaux espaces dans le pavillon La Fontaine, au cœur du parc. C'est très excitant, lance Miguel Cubillos, gestionnaire des services de soutien d'ACCM. Ce nouveau départ coïncide avec un changement d'approche et de vision pour l'organisme anglophone. Les besoins de nos communautés ont grandement changé ces dernières années, et nous nous demandions comment les servir de manière durable, explique Crystal Harrison, gestionnaire du département de l'éducation pour la prévention chez ACCM. Au printemps 2024, nous avons donc amorcé une importante révision de notre structure, de nos services et de nos façons de faire. En tant qu'organisation, ACCM vise donc aujourd'hui à honorer son héritage tout en se tournant vers l'avenir. En plus d'un nouvel emplacement au Parc La Fontaine, le renouveau d'ACCM se traduit notamment par un élargissement de la clientèle cible de l'organisme. En effet, l'équipe se donne maintenant pour mission d'intervenir en amont auprès des personnes à risque, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'aide aux personnes vivant déjà avec le VIH. Ces groupes incluent, entre autres, les nouveaux arrivants. Offrant des services en anglais, en français, en espagnol et en arabe, ACCM est parfaitement positionné pour interagir avec cette communauté. Parmi les services offerts aux nouveaux arrivants, on compte un soutien à la compréhension du système de santé. Les personnes nouvellement arrivées nécessitent beaucoup de temps à s'installer. Ils ont donc souvent d'autres priorités que leur santé. Nous les aidons donc à comprendre notre système de santé. Nous leur fournissons de l'information sur les services disponibles ou les aidons à obtenir des rendez-vous, illustre Miguel Cubillos. Grâce à ACCM, les personnes nouvellement arrivées peuvent aussi obtenir des formations pour faciliter leur intégration dans la culture québécoise. Le volet santé est un aspect important, mais nous avons réalisé qu'il y avait également un manque du côté de la littératie financière, par exemple. Nous proposons donc des ateliers de formation à propos de la préparation de budget, de la compréhension des taux de change, du système bancaire québécois, etc., illustre Miguel Cubillos. En quelque sorte, nous tentons de paver la voie pour qu'il puisse développer une vie florissante au Québec. En plus d'élargir son soutien aux nouveaux arrivants, ACCM a également développé des programmes de sensibilisation destinés au public plus jeune. Nous allons dans les écoles, dans les communautés où la sensibilisation au VIH n'est pas abordée et où les options de prévention ou de protection ne sont pas connues, renchérit Crystal Harrison. Plusieurs élèves rencontrés sont surpris de savoir que la PrEP existe et qu'elle peut prévenir le VIH. Cette situation pousse d'ailleurs les intervenants à tirer la sonnette d'alarme à propos d'un manque dans l'éducation à la sexualité dispensée dans les écoles. En effet, les deux spécialistes qui sont formés pour aborder ces notions déplorent que 5 à 15 heures d'éducation à la sexualité doivent être intégrées dans le cursus scolaire, mais que la quinzaine d'heures ne soit que très rarement atteinte. La question de la sexualité retombe souvent sur les épaules des enseignants, à qui l'on demande injustement de devenir des experts en santé sexuelle, en plus de leurs autres fonctions. Les infirmières scolaires sont débordées et ne peuvent pas toujours mettre leurs connaissances à disposition. Plusieurs jeunes cherchent donc des réponses en ligne, possiblement via de mauvaises sources, souligne Crystal Harrison. Afin d'offrir un soutien adéquat au personnel scolaire et des sources d'informations fiables aux jeunes, ACCM propose donc diverses formations sur mesure adaptées aux questionnements et à la réalité de la clientèle scolaire. Parmi les thèmes abordés lors de celle-ci, on compte la question des relations saines, les rapports sexuels protégés, le VIH-101, le mélange du sexe et des drogues, la réduction des risques de santé ou encore la démystification du PNP, Party and Play. Au total, ce sont ainsi 1927 jeunes qui ont été sensibilisés dans le cadre de 64 ateliers et 28 kiosques l'an dernier seulement. La réinvention d'ACCM passe également par un retour aux sources, soit la présence sur le terrain dans les endroits et événements où se rassemblent les communautés à risque ou vivant avec le VIH. L'organisme a ainsi relancé au cours de l'année plusieurs partenariats qui avaient existé par le passé, mais qui avaient dû être mis en pause, faute de ressources. ACCM est donc de retour dans le nightlife montréalais sur une base hebdomadaire sous la forme de kiosques lors de différents événements et party queer. L'équipe distribue notamment des écussons faisant la promotion de la consommation sécuritaire de drogue ou encore du matériel pour le sécurisex gratuit tel que des digues dentaires. Pour Miguel Cubillos, la présence d'ACCM sur le terrain est une façon d'établir une communication à double sens avec la communauté. Lors des différents événements, les gens viennent discuter avec nous. Ils nous permettent de mieux connaître leurs besoins, ce qui influence ensuite les formations et le matériel que nous partageons par la suite. Après un moment de hiatus, ACCM est donc de retour en force auprès de la communauté, avec une vision claire, des objectifs renouvelés et une équipe des plus enthousiastes pour servir les populations à risque ou vivant avec le VIH, conclut Miguel Cubillos. Notre structure et nos équipes étant maintenant stabilisées, il est temps pour nous de revenir dans la communauté, de se faire entendre et de montrer qui nous sommes et ce que nous avons à offrir, des humains talentueux avec des connaissances à partager. C'était Renaissance d'ACCM, se tourner vers l'avenir tout en honorant son héritage. Un texte de Stephen Ross, paru le 25 mai 2025 dans le magazine Fugue.
J'ai de l'expérience pourtant. Un texte de Maud Goyer, paru le 20 mai 2025 dans La Presse. Ce n'est pas de la paresse ni de la mauvaise volonté. Si votre ado a du mal à se trouver un emploi cet été, il n'est pas seul. Non seulement la conjoncture économique est désastreuse pour les jeunes, mais ils reçoivent moins d'aide des organismes jeunesse censés les soutenir. Le taux de chômage est trois fois plus élevé chez les 15-19 ans que pour la population globale du Québec. Il est de 17 % comparativement à 5 %. C'est énorme, lance Maria Eugenia Longo, professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. Citation : Chaque fois qu'il y a une crise, ce sont les jeunes qui sont les premiers à sortir du marché de l'emploi. Fin de citation. La chercheuse, co-titulaire de la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, volet emploi et entrepreneuriat, rappelle que depuis les années 1970, les jeunes contribuent à l'économie. Leur taux d'emploi demeure haut même s'ils sont proportionnellement moins nombreux dans la société. Citation : Ils n'ont jamais autant contribué, dit-elle. Lorsque la conjoncture est favorable, les jeunes s'intègrent au marché de l'emploi. Ils sont plus diplômés, ils sont actifs et ils sont disponibles. Fin de citation. Le ralentissement économique, attribuable à la conjoncture actuelle, à la situation géopolitique, à l'imposition des droits de douane, à l'incertitude et à l'instabilité, frappe fort et brutalement les jeunes, souligne Mme Longo. Les postes sont non seulement moins nombreux, mais aussi déjà occupés. Citation : J'ai distribué 30 CV, j'ai fait des suivis et rien. Fin de citation, confie Mathis Côté-Allard, un cégepien de 18 ans qui planifiait travailler à temps plein dans le milieu de la restauration cet été. Le Montréalais jure qu'il a suivi à la lettre toutes les bonnes astuces pour se dénicher un boulot. Rappel, visite en personne, large distribution, mise à profit du réseau de contact de son entourage. Citation : Je n'ai même pas été appelé en entrevue, glisse-t-il. J'ai de l'expérience pourtant. C'est décourageant et je suis obligé de me demander « Est-ce que ça va être la même chose quand je vais finir mes études? Est-ce que je vais me trouver une job dans mon domaine ou c'est peine perdue? » Fin de citation. Moins d'aide. Au réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec, RCJEQ, on confirme qu'il y a un effet de sidération, un mélange de surprise et d'exaspération chez les jeunes qui peinent à se trouver un emploi. Citation. Comment perçoivent-ils l'avenir et comment sont-ils censés bâtir s'ils sont exclus du marché de l'emploi et s'ils ne se sentent pas suffisamment soutenus? Fin de citation, dit Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ. M. Humbert fait référence aux récentes annonces du gouvernement qui a fait des coupes dans les subventions aux organismes de soutien à l'emploi jeunesse. La professeure Maria Eugenia Longo confirme, citation, il y a depuis 2023 un désengagement de l'État dans les organismes et dans certains programmes qui aident et soutiennent les jeunes, par exemple pour la réinsertion de jeunes en difficulté. Ça me semble bien peu stratégique. Fin de citation. L'experte rappelle que le modèle québécois en matière de politique jeunesse était avant-gardiste, efficace et admiré. Citation. On parlait de l'exception québécoise. Fin de citation, précise-t-elle. Entre autres, en raison de l'approche holistique, multisectorielle. Citation. Mais désormais, les jeunes ont accès à moins de ressources. Ils doivent se débrouiller seuls. Fin de citation. Cela nourrit une certaine désillusion et un cynisme, croit M. Humbert. Comment faire? Mais ils ne sont pas que cyniques, ils sont aussi pleins d'espoir. Les employeurs ont beaucoup à gagner à embaucher des jeunes, croit la professeure Maria Eugenia Longo. Citation. On s'enrichit de la jeunesse qui est plus éduquée, curieuse, ouverte à la diversité, et elle est novatrice, elle apporte un autre regard. Fin de citation. Dans ce contexte, comment se trouver un emploi cet été quand on fait ses premiers pas dans le marché de l'emploi? Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ, recommande de bien valoriser ses compétences et ses expériences dans son CV et de se rendre sur place pour le distribuer. Citation. Il faut en remettre plusieurs dizaines pour obtenir une entrevue, indique-t-il. Préparez-vous bien, maintenez l'intérêt en faisant des suivis et armez-vous de patience. Fin de citation. C'était « J'ai de l'expérience pourtant », un texte de Maude Goyer, paru le 20 mai 2025 dans La Presse.